VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous, il est 17h30 temps universel, le monde aujourd'hui, édition du lundi 17 avril 2017, en direct de Washington DC. Au sommaire ce soir, République démocratique du Congo, la situation reste alarmante en périphérie de Kananga, dans le Kasaï central. Plus de 8000 migrants secourus rien que ce week-end au large des côtes libyennes. Et mise en garde sévère des États-Unis à la Corée du Nord, l'ère de la patience stratégique est terminée. Retrouvez Eric Manirakiza à la fin de ce journal pour les sports et Dili Dico pour la Minute Éco. Mais d'abord, le journal. République démocratique du Congo, le gouvernement déploie des efforts pour mettre fin aux affrontements meurtriers dans la province du Kasaï central. À Kananga, la capitale provinciale, le calme est revenu après des mois d'affrontements entre forces de l'ordre et les milices de Kamuina Nsapu. Dans les périphéries, la situation est toujours alarmante. Le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur Emmanuel Ramazani Shadari s'est rendu samedi dans la région. Solange Nyamulisa a recueilli le témoignage d'un habitant de Kananga qui a préféré garder l'anonymat par peur de représailles.
La situation actuelle à Kananga, le premier ministre Emmanuel Shadari qui est sur place, sont en train de négocier. Ils ont choisi un autre chef qui pourrait être installé justement. Lorsque le chef sera investi, il pourra tout faire pour convaincre les miliciens qui sont de son côté de faire la paix, quoi. Même à Kananga, ici, dans le centre de la ville, il y a un peu d'accalmie, mais à l'intérieur, où ça ne va pas là. Et ils ont tué beaucoup, même. Comme à Katoka, actuellement, on a tué des garçons. Bon, vers les ranges, souvent aussi, il y a des tirs, tout dans la périphérie. Six chauffeurs qui ont été tués, donc quatre chauffeurs et deux mécaniciens. On a tout brûlé, on a tué tout ce monde-là. Il y a ceux qui sont en brousse, il y a ceux qui sont déplacés pour être dans des familles d'accueil. Moi-même, chez moi ici, j'ai mes frères qui sont avec moi ici. Et c'est comme ça partout. Moi, jusque-là, la famille n'y est pas encore. Nous attendons voir.
Voilà, c'est un habitant de Kananga en RDC. Et au Congo toujours, le pasteur Joseph Mukungubila aurait obtenu l'asile politique en Afrique du Sud. Pretoria n'a pas confirmé cette information donnée par le porte-parole du chef de l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Il est accusé par Kinshasa d'être le cerveau d'attaques qui ont fait des centaines de morts en 2013. Naufrage dans le nord du Malawi. Au moins 5 personnes sont mortes hier. Leur embarcation était surchargée et les vents violents. Ce week-end, 35 opérations de secours ont eu lieu pour venir en aide à plus de 8000 migrants au large des côtes libyennes. Et des précisions, Anastasie Tudiech.
Le mauvais temps a empêché lundi de nouveaux départs de migrants depuis les côtes libyennes. 8500 personnes ont été secourues et 13 retrouvées mortes ce week-end de Pâques. Les gardes-côtes italiens mènent les opérations de sauvetage en Méditerranée centrale. Selon l'ONG Jugendrettet, environ 3000 personnes ont été secourues en une seule journée samedi. Pauline Schmitt a ajouté que son organisation n'a jamais eu à s'occuper d'autant de personnes en même temps. Vendredi, plus de 2000 migrants ont été secourus. Un adolescent a été retrouvé mort dans l'un des canots à la dérive. De nombreux migrants meurent étouffés ou noyés dans ces embarcations surchargées par les passeurs. Quelques 27 000 migrants venant essentiellement d'Afrique subsaharienne ont débarqué sur les côtes italiennes depuis le début de l'année.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Dans le reste du monde, le vice-président des États-Unis a mis en garde le gouvernement nord-coréen contre toute tentative d'éprouver la détermination du président Donald Trump. Mike Pence a lancé cet avertissement à Séoul alors que la tension monte entre Washington et Pyongyang sur la question nucléaire. Chérubin Gaby Dorsil nous en dit plus.
Suite à une visite très symbolique de la zone démilitarisée, Mike Pence a fait référence aux récentes frappes américaines en Syrie et en Afghanistan avant d'affirmer que le président Donald Trump utilisera la force militaire si nécessaire pour faire face à la menace nucléaire croissante du gouvernement de Kim Jong-un. Le vice-président est arrivé dimanche en Corée du Sud au début d'une tournée dans 4 pays asiatiques pour renforcer l'engagement des États-Unis envers ses alliés dans cette région de plus en plus volatile et pour développer un soutien international et faire pression sur Pyongyang. Lors d'une conférence de presse à Séoul, le vice-président Pence a rappelé les efforts déployés depuis 1992 pour une péninsule coréenne dénucléarisée. Et Mike Pence d'ajouter « Toutes les options sont sur la table ». Moscou condamne les aventures nucléaires et balistiques de Pyongyang, mais rejette toute action unilatérale du gouvernement américain.
À noter également que la Russie dit espérer que les États-Unis n'agiront pas de manière unilatérale vis-à-vis de la Corée du Nord, comme cela a été fait en Syrie. Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, fait ainsi référence au bombardement d'une base syrienne. Lutte pour le contrôle de Mossoul en Irak. Selon les Nations Unies, près d'un demi-million de personnes ont quitté leur logement depuis le début, il y a 6 mois, de l'offensive irakienne pour reprendre la grande ville du Nord au groupe État islamique. Le président turc Recep Tayyip Erdogan fait face à une contestation croissante de l'opposition au lendemain du référendum constitutionnel sur l'extension de ses pouvoirs. Les deux principaux partis d'opposition ont dénoncé des manipulations et annoncé leur intention de demander le recomptage des voix. On fait le point avec Salwa Jafari.
Le score serré du référendum illustre bien la polarisation de la Turquie. La réforme constitutionnelle a été approuvée à une courte majorité de 51,37%. Les opposants n'ont pas manqué de montrer leur mécontentement dès l'annonce des résultats. Les deux principaux partis d'opposition, le Parti républicain du peuple et le Parti démocratique des peuples, ont dénoncé des manipulations et ont annoncé qu'ils feraient appel. Bulent Tezcan, secrétaire général du CHP.
La seule décision qui mettra fin au débat sur la légitimité du vote et aux préoccupations juridiques des citoyens est l'annulation de ce référendum par le Haut Conseil électoral.
Le président Erdogan devrait retrouver sa place dans les rangs de son parti, premier volet de la réforme constitutionnelle élargissant ses pouvoirs. Les autres prérogatives n'entrent en vigueur qu'après les élections prévues en 2019.
Et grève de la faim dans les prisons israéliennes. Plus d'un millier de détenus palestiniens refusent de se nourrir. Ils agissent ainsi pour protester contre les abus de l'administration pénitentiaire, disent-ils. Le mouvement a débuté ce lundi. Et Pakistan, 22 personnes ont été arrêtées pour le meurtre d'un étudiant accusé de blasphème. Mashal Khan, étudiant en journalisme, avait été battu à mort par une foule à Mardan, ville conservatrice du nord-ouest du pays. Des centaines de personnes ont manifesté pour réclamer justice, mais des analystes craignent que cela n'aboutisse à rien. Nouvelle flambée de violence dans le Cachemire indien. Des dizaines d'étudiants ont été blessés dans des échauffourées avec les forces de l'ordre dans cette région disputée entre l'Inde et le Pakistan. La police a usé de gaz lacrymogène sur des étudiants donc à Srinagar. Au Venezuela, l'armée est déployée dans tout le pays dès aujourd'hui. C'est en tout cas ce qu'a annoncé le président socialiste Nicolas Maduro à 2 jours d'une nouvelle manifestation annoncée par l'opposition. Ici aux États-Unis, la police recherche le meurtrier présumé d'un vieil homme à Cleveland qui a diffusé son assassinat sur Facebook. J'en ai tué 13 et je cherche à en tuer un 14e au moment où je parle, a déclaré le tueur présumé, identifié par la police comme Steve Stephens. La Tunisie a présenté ce lundi un projet contre le travail des enfants qui a récemment pris de l'ampleur selon le ministre des Affaires sociales Mohamed Trabelsi. Le pays est signataire des conventions internationales relatives à cette question, mais ce qui nous manque, c'est le travail sur le terrain, a expliqué à l'AFP Monsieur Trabelsi lors du lancement du projet Ensemble contre le travail des enfants en Tunisie. à Hammamet, au sud de Tunis. Bien que des statistiques exactes ne soient pas encore disponibles sur le travail des enfants, ce phénomène a pris ces dernières années une certaine dimension quand même, surtout avec la situation actuelle en Tunisie, une situation de transition, a dit le ministre en allusion à la révolution de 2011 qui a balayé une dictature de plusieurs décennies. Et voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. L'actualité économique en Afrique, Dilidico, la Minute Éco.
Au Cameroun, la réforme des marchés publics a permis au Trésor d'économiser 500 milliards de francs CFA en 5 ans. Selon Abassadou, le ministre des marchés publics, la réforme de 2011 a promu une concurrence saine. Les économies ont été obtenues par la réduction du nombre de marchés publics passés de gré à gré de 46 à 10%. Plusieurs milliards de francs CFA ont été économisés sur des doubles facturations, des surfacturations et des demandes de paiement pour prestations non exécutées. Au Bénin, le président Patrice Talon s'est prononcé hier sur le franc CFA. Il a loué les mérites de la parité fixe avec l'euro. Selon lui, le fait que le franc CFA soit en parité fixe avec l'euro n'est pas du tout un handicap. Il a ajouté que la stabilité d'une monnaie par rapport aux devises est un avantage. Sa prise de position survient après la déclaration du président ivoirien Alassane Ouattara soutenant la solidité du franc CFA. Selon une étude du cabinet McKinsey, parue dans la Harvard Business Review, 5 pays africains sont menacés par la robotisation. Les emplois sont le plus en danger face à l'automatisation au Kenya, au Maroc, en Égypte, au Nigeria et en Afrique du Sud. Dans ces pays, entre 52 et 41% des métiers peuvent être remplacés par des robots.
Plein feu sur les stades, les sports avec Eric Manirakiza. Bonsoir Eric.
Bonsoir Morgane.
Ligue des champions en Europe, on s'approche de la demi-finale.
Trois belles affiches demain en quart de finale retour. Real Madrid reçoit au Bernabeu le Bayern Munich. Les Meringues sont confortés par leur victoire à l'aller de 2-1. Mais l'attaquant gallois Gareth Bale ne répondra pas à l'appel. Touché à un mollet, Morgan, sa présence sur le terrain est aussi incertaine pour le Classico contre Barcelone dimanche en Liga. Zinedine Zidane a déjà choisi son remplaçant, mais il maintient le suspens sur le nom qui va consolider la puissance de feu du Real avec un Cristiano Ronaldo au top de sa forme. Le Portugais est en passe de devenir le premier joueur à totaliser la barre mythique des 100 buts en Ligue des Champions. Il lui suffit de marquer un doublé pour inscrire son empreinte dans l'histoire de cette compétition. Et le Real, solide leader de Liga, rêve déjà d'un printemps glorieux qui le verrait devenir le premier club depuis l'AS Milan. En 1990, Morgan a conservé sa couronne européenne.
Mais Eric, le club munichois reste la bête noire de l'ogre merengue.
Tout à fait, Morgan. On lui reconnaît surtout son fort caractère de l'équipe et sa volonté hors du commun. Bien que tout place le Real en position de force pour décrocher sa 7e qualification consécutive pour les demi-finales de cette compétition, gare à ne pas enterrer trop vite le Bayern. En 2013, l'attaquant polonais Robert Lewandowski, forfait lors du match aller, avait inscrit en 4 buts face au Real pour envoyer Dortmund en finale. Il sera donc de retour pour le rendez-vous de demain. Mais sa défense, qui est très affaiblie, sans Ravi Martinez, qui est suspendu, éventuellement sans défenseurs centraux de métier comme Jérôme Boateng et Mats Hummels.
Eric, on parle beaucoup aussi de la rencontre Barcelone-Juventus.
Le Catalan joue son avenir européen contre la Juventus Turin avant d'affronter le Real Madrid à quitte ou double en championnat d'Espagne. Le Barça compte surtout sur le grand Léo. L'Argentin reste la pièce vitale dans cette rencontre. Messi sera le principal atout pour rêver de remontada pour remonter 3 buts à la Juventus et à sa défense de fer dont le gardien Gianluigi Buffon n'a jamais encaissé de but signé Messi. Le Barça a déjà réussi l'exploit historique de renverser le Paris Saint-Germain en huitième de finale, 6-1.
Merci Eric.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Morgane Guerrier, en votre compagnie, deuxième partie d'émission, les dossiers du jour. Au Congo-Brazzaville, devant chaque station-service, de longues files d'attente. Obtenir quelques litres d'essence ou de gazole est devenu le nouveau spectacle dans la capitale de ce pays pétrolier. De Brazzaville, reportage de Ngolan Goussou.
Cela fait plusieurs semaines que ça dure, de longues files d'attente devant des stations-service pour espérer quelques litres d'essence ou de gasoil. Les automobilistes n'en peuvent plus à Brazzaville.
Ça fait depuis hier à 11h que je suis là. J'ai passé une nuit ici, ma voiture est là. On nous a promis qu'on devait vendre ce matin, malheureusement. Jusque-là, on n'a aucune nouvelle.
On dort ici, on fait passer tout ici. Rien pour avoir le carburant, vraiment, c'est très difficile. Des fois, j'ai le carburant, mais pour livrer vraiment au client, là, vraiment, c'est difficile.
Au fait, dans la station, nous n'avons pas de nouvelles sur le chef de vente. Nous nous faisons attendre, c'est-à-dire espérer. On ne sait pas si ça va arriver ou pas.
Oh, mais ça fait au moins plus de 3 jours, moi, je suis à la station. Je n'arrive, mais j'entends de veiller ici, je mange ici. C'est des trucs, vraiment, ça ne marche pas.
Ces pénuries ont un impact certain sur l'activité des transporteurs en commun, dont la tension reste très palpable. Très souvent, la ville se réveille au ralenti en l'absence d'une circulation dense.
Mais oui, quand on vient livrer, souvent, c'est des chefs qui viennent souvent les voitures personnelles. Hein, comme ils nous voient seulement comme s'ils ne sont pas des... Ils ne sont pas importants, quoi. Donc, nous sommes importants pour déplacer les travailleurs, les malades qui vont à l'hôpital.
Là, vous voyez, on a au moins 1000 véhicules hein, stationnés là. 1000 véhicules.
Vous voyez, on ne travaille pas bien. Dans une semaine, on peut travailler 2 jours. Ça dit 3 jours après, bon. Après 4e jour, nous sommes à la station.
Le Congo-Brazzaville est toujours dans le top 5 des producteurs du pétrole en Afrique. Malheureusement, la raffinerie nationale ne fournit que moins de 30% des besoins locaux. Et d'ailleurs, cette raffinerie devait rester fermée tout ce mois d'avril pour travaux d'entretien. Les taximans, eux, ne manquent pas d'ironie.
Ouh là là, c'est une manœuvre de guerre.
Du côté des consommateurs, on ne justifie pas la pénurie combinée du gaz et du carburant. Mermous Babunga, responsable de l'association de défense des droits de consommateurs, parle d'une pénurie savamment entretenue par un réseau de corrupteurs.
À chaque fois qu'il y a pénurie, c'est cette vente avec les bidons qui est privilégiée. Et ce sont les policiers qui collectent les bidons autour de la station moyennant 2000 ou 3000 francs. Et les pompistes et les policiers ne sont pas seuls. C'est un véritable réseau. Les pénuries de carburant sont entretenues par ces réseaux de corruption pour se faire de l'argent plutôt.
Pour l'heure, aucune solution n'est envisagée à l'immédiat. Hier soir, des milliers de voitures ont passé une unième nuit des dimanches devant les stations, alors que le ministre des Hydrocarbures, Jean-Marc Tisser-Tikaya, prévoit le début de solution vers octobre 2017, concernant particulièrement le gaz. Nguela Ngoussou, Brazzaville, VOA Afrique.
Vous êtes sur VOA Afrique, à Brazzaville, sur le 101.9 FM.
En Italie, les gardes-côtes affirment avoir secouru près de 8000 migrants en Méditerranée depuis vendredi. Rien ne semble freiner le flux par cette voie périlleuse. Et c'est dans ce contexte qu'un groupe d'Africains vivant en Europe s'est rendu au Cameroun cette semaine pour lancer une campagne contre la migration illégale. Les détails dans ce reportage de Mokedwin Kinzeka Yaoundé, présenté ici par Bagasikoura.
Le groupe s'appelle « Plus de morts dans le désert ou en mer ». Sa mission est simple, éduquer les jeunes Africains à propos des dures réalités de la migration illégale.
Nous voulons leur dire que toutes les informations que les gens leur donnent avant de commencer leur voyage sont fausses.
Le leader du groupe, Sylvie Nancha, est née au Cameroun. Elle a vécu dans la ville allemande de Fribourg pendant 25 ans. Elle est arrivée en tant qu'étudiante et est devenue la première conseillère d'origine africaine de la ville.
J'ai fait beaucoup d'entretiens l'année dernière avec les Africains. Ils m'ont dit que lorsqu'ils ont commencé leur voyage, ils pensaient que le voyage leur prendrait peut-être 2 semaines. Mais ils ont passé 1 an, 2 ans, voire 3 en route. Ils ont dépensé plus de 10 000 euros. Mais lorsqu'ils sont arrivés en Italie, en Espagne ou en Allemagne, ils n'avaient rien.
Bien sûr qu'il s'agit de migrants qui ont survécu. L'Organisation internationale pour les migrations rapporte que plus de 5000 personnes sont mortes en 2016 en Méditerranée. C'est une augmentation de 35% par rapport aux décès de l'année précédente. Nansha s'est associé à 9 autres Africains vivant en Europe. Ils envisagent de visiter le Nigeria, le Kenya, le Ghana, le Niger, l'Algérie et la Libye d'ici la fin de cette année pour visionner un film basé sur les entretiens de Nansha avec les migrants. Des centaines de personnes se sont rassemblées à chacune des 3 projections à Yaoundé cette semaine. L'objectif du film est de dissuader la migration illégale, mais les jeunes ont déclaré à VOA Afrique qu'ils connaissaient déjà les risques. Certains disent que le manque d'emploi et les politiques d'immigration restrictives de l'Europe laissent peu d'options. Ngenang Bruno est âgé de 24 ans.
Je n'ai pas besoin d'un film aujourd'hui, c'est plusieurs films déjà. Mais je pense que c'est un choix que beaucoup ont décidé de prendre. Beaucoup pensent que le seul moyen aujourd'hui de vivre, c'est de mettre sa vie en danger, à traverser un désert, à traverser la mer.
Robert Alain Lipoti, 29 ans, lave les assiettes dans son restaurant dans le quartier d'Etoudi. Son oncle lui a prêté l'argent pour commencer ses affaires après qu'Alain soit rentré de sa triste aventure à travers le désert, tentant de se rendre en Europe. Milingi Biapol, lui, a 35 ans. Il est allé jusqu'en Algérie où il a été arnaqué.
Nous passons 3 semaines au désert du Sahara. Parfois, la nourriture finit, vous perdez au désert. Vous voyez des gens mourir devant vous. Voilà les ossements humains.
Malgré les difficultés, plusieurs rapatriés disent qu'ils vont essayer de repartir à nouveau.
Il est bien, le Cameroun est bien, mais le Cameroun, pour moi, je dirais que c'est en tête des jeunes. Mon rêve, ce n'est pas de rester au Cameroun, de continuer à coiffer au Cameroun.
Vous écoutez VOA Afrique à Douala, au Cameroun, sur Radio Balafon, FM 90.2.
Au Sénégal, la fête de Pâques est l'occasion pour la minorité catholique de distribuer aux frères et sœurs musulmans d'une gala, un plat dont raffole la population. Il s'agit d'une vieille tradition qui met en exergue une entente entre les deux communautés. Reportage de notre correspondant à Dakar, Sidina Abagui.
Le ngalakh est un mélange sucré à base de pain de singe, de pâte d'arachide et de couscous de mil. Ce repas est servi spécialement durant les fêtes de Pâques. Léontine Diata, fidèle catholique.
La fête de Pâques, c'est pour rendre hommage à Jésus. Mais comme les musulmans nous gratifient de copieux repas lors de leurs différentes fêtes, c'est pourquoi nous profitons de Pâques pour leur rendre la politesse en leur servant le ngalakh. Cette action est une lointaine tradition que nous avons le plaisir de pérenniser car ça nous permet de raffermir nos liens avec nos frères et sœurs musulmans.
Pour Mamoudou Diagne, cette tradition s'inscrit dans la lignée de la cohabitation exemplaire entre musulmans et catholiques.
Au Sénégal, c'est un cas exceptionnel. Souvent, dans des familles, on voit les grands-parents ou les arrière-grands-parents, c'est presque la même famille. Celui-là est chrétien, celui-là est musulman. Il n'y a pas une grande différence entre les communautés, quoi. Il n'y a pas une grande différence, on se marie entre nous. Ça ne choque personne et ça ne pose aucune difficulté. Je crois que pour nous corriger bien, ça c'est dû à ce que nos grands-parents et grands-parents ont fait.
Abbé Alphonse Seck, directeur des œuvres sociales du diocèse de Dakar, ajoute que cette coexistence entre musulmans et catholiques tire son essence dans les valeurs historiques et dans l'origine même de la nation sénégalaise.
Cette entente, cette cohésion fait naître évidemment des actions de solidarité, des actions aussi qui sont basées sur l'amour, simplement. Et de respect que les uns et les autres se manifestent et se vouent, particulièrement par le fait que, justement, nous tous, nous avons conscience que nous avons le même peuple, que nous avons la même tradition et la même histoire, mais aussi, surtout, que nous sommes des croyants. Il y en a qui sont musulmans, d'autres sont chrétiens, d'autres sont même animistes. Et donc, par ce fait-là, une telle cohésion ne peut être possible que si chacun ou chacune des parties vit dans le respect mutuel, dans l'amour mutuel et dans la solidarité.
Loin des troubles ethniques et religieux qui secouent l'Afrique et le monde, le Sénégal offre un véritable exemple de coexistence pacifique entre communautés. Musulmans et catholiques vivent dans une harmonie totale dont l'un des symboles les plus forts demeure le ngalakh de Pâques. Ce repas si spécial. Seydina Abagay, à Dakar, pour VOA Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur voafrique.com. À tout de suite.
La tension monte dans la péninsule coréenne. Le vice-président américain Mike Pence, en visite dans la région, a déclaré que l'ère de la passion stratégique est terminée. Que signifie cette mise en garde à l'endroit de Pyongyang? La réponse de l'analyste politique américain Simon Serfati, joint par Abdourahmane Dia.
Si l'on s'en tient à ce qu'il a dit, cela veut dire que l'option militaire est placée de plus en plus en avant de la conception stratégique de l'administration. Mais il ne faut pas se limiter à ce simple propos, parce que le vice-président a aussi semblé ouvrir la possibilité d'une voie diplomatique.
Monsieur Serfati, ce week-end, le patron du Conseil national de sécurité, le général McMaster, a également dit que toutes les options étaient sur la table. Est-ce que l'option militaire vous semble envisageable vraiment?
Je crois très dangereusement, très dangereusement. Les risques sont véritablement énormes. Parce que d'une part, la Corée du Nord a des moyens de représailles très importants vis-à-vis des pays voisins, y compris Séoul, qui après tout est une trentaine de kilomètres du 38e parallèle de la frontière entre la Corée du Nord et la Corée du Sud, et également vis-à-vis du Japon, et des moyens militaires très importants qui ne pourraient pas être totalement éliminés par une frappe américaine, quelle que soit sa nature. Et d'autre part, il y a à Pyongyang une direction qui est malgré tout au bord de l'irrationalité et qui est disposée à prendre elle-même des risques très importants. Donc la frappe militaire ne peut être considérée véritablement comme un dernier recours et nous n'en sommes pas encore là.
Sans oublier le rôle que la Chine pourrait éventuellement y jouer.
Parce qu'une démarche diplomatique ne pourrait avoir lieu qu'avec un soutien, un apport, un appui de la Chine. Souvenez-vous que l'ouverture sur l'Iran, initiée en fait par le président George W. Bush, avant même Obama, c'était à l'origine faite par État interposé, c'est-à-dire que c'était en fait la France, l'Allemagne et la Grande-Bretagne et qui avaient initié cette conversation avec l'Iran, puis remplacée par l'Union européenne agissant au nom des trois, et puis éventuellement amenant la participation américaine.
Simon Serfati, analyste politique.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Salut les amis, ici Roger Moutou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h dans Universel. Au menu, le top 10 American Music, les nouveautés de la musique américaine. Vos commentaires sur notre page Facebook, Roger Moutou, la voix de l'Amérique. Et vos SMS au 225-58-9240. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h dans Universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
Thank you.
C'est la fin de cette édition. À la mise en onde de Sims Loumami, Morgane Viriac à la présentation, ainsi va le monde aujourd'hui. On reste en contact sur Facebook. Au revoir.
Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. À Bamako sur 102 FM, Raga FM Kinshasa, Soleil FM Conakry, 92.3 FM, Radio Wentanga, Wayeguya, Burkina Faso et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes, Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.